Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin.
Parole de femme.
Au Sénégal, une jeune femme se distingue dans le milieu très masculin des courses automobiles. Encouragée par sa famille, la pilote Fatoumata Ba a remporté une course à Dakar où 4 hommes et 4 femmes se disputaient la première place. Et c'est également une femme qui a remporté la 3e place. On revient sur cet événement avec Yacouba Ouedraogo.
C'était le mix, donc j'ai battu les garçons.
Fatoumata Ba a remporté la course du Grand Prix de Dakar. La pilote sénégalaise d'autres femmes pilotes défie les stéréotypes de genre dans ce sport traditionnellement dominé par les hommes et dans ce pays socialement conservateur.
Les femmes ou hommes, ça ne veut rien dire. On est au 21e siècle maintenant. Girl power.
Inspirée par le célèbre rallye Paris-Dakar, les organisateurs veulent créer un événement où les femmes et les hommes peuvent concourir sur un pied d'égalité. La course a vu 4 hommes et 4 femmes se disputer la première place.
Généralement, on dit femme au volant, mort au tournant. C'est un vieil adage. Aujourd'hui, j'ai prouvé que ce n'était pas le cas. Et demain, je pense qu'on le fera encore. La preuve, j'étais première. Et Nafissa, elle était 3e. Donc, les femmes n'ont pas démérité.
Fatoumata Ba a commencé à faire des courses à voiture il y a 20 ans, après que son père l'a encouragé à partager son intérêt pour les voitures. Son mari, le mécanicien cher Tidiane Batili, est aussi son entraîneur.
Ce que je ressens justement dans ces moments-là, c'est déjà de la fierté. La fierté pour moi et de la joie pour elle, parce que je sais que c'est quelque chose qu'elle aime. Et d'avoir gagné justement, après tous les efforts que ça a demandé, franchement c'était super satisfaisant.
Fatoumata Ba a fait don de ses gains à l'organisation SOS Village d'Enfants, où elle travaille depuis qu'elle a quitté la banque.
Cette course est beaucoup pour les enfants défavorisés, les enfants démunis, les enfants qui ont besoin de sourire et d'espoir. Donc ces couples-là, c'est pour leur montrer que tout est possible dans la vie, avec du courage, de la persévérance, on y arrive.
Des leçons de vie bien incarnées par la personne de Fatoumata Ba.
Parmi les nombreuses stations de lavage auto à Conakry, 2 sont gérées par des femmes. Notre correspondant Zakaria Camara est allé à la rencontre de 2 sœurs propriétaires d'une de ces stations. Il a aussi tendu le micro à une adolescente employée d'un car wash center de la capitale.
Avec leur diplôme universitaire en poche, Ousenatou et Assanatou ont vite nourri l'ambition d'être indépendantes. Une volonté qui va aiguiser leur appétit pour l'entrepreneuriat.
Elle et moi, on n'avait pas vraiment beaucoup d'argent. Et ce qu'on voulait vraiment, c'est avoir toujours, tous les jours, un peu. Que, par exemple, d'avoir une boutique d'habits où tu vas vendre un complet par semaine, ou parfois ne pas vendre du tout. Donc on a choisi le car wash parce que c'est d'abord indépendant.
Les 2 sœurs sont passées de clientes à patronne ou Ousenatou Diallo.
Ma jumelle et moi, nous, à un moment, on partageait une voiture. On allait laver ailleurs et à côté, on patientait le temps que la voiture soit lavée. Donc après, on s'est dit, comme il fallait en ce moment forcément qu'on investisse notre argent, on ne voulait pas le garder en banque, on s'est dit que pourquoi pas un lavage automobile et puis une cafétéria. C'est-à-dire au lieu d'aller faire laver la voiture ailleurs et patienter dans une cafétéria le temps que la voiture soit lavée.
Le car wash des jumelles emploie 3 personnes et pourtant, le début n'a pas été facile, raconte Ousenatou Diallo.
À ces jours, ça ne va vraiment pas.
et tu te réveilles d'abord pas trop en forme, tu arrives au boulot, c'est autre chose, on te dit les machines sont gâtées, alors qu'il y a des clients, ça commence à se stresser, c'est trop stressant en fait. J'ai même remarqué qu'il y a des cheveux blancs qui ont commencé à sortir sur ma tête. Donc, parfois, il y a des clients aussi qui sont très compliqués, mais on fait avec parce que c'est notre local, c'est notre business, on est obligé.
Les clients que nous avons rencontrés sur les lieux se disent satisfaits des services proposés par les jumelles.
Très, très satisfaits parce que, un, c'est très rare de voir des jeunes filles comme ça faire ce genre de boulot. Et c'est vraiment impressionnant. Si je peux dire comme ça. Et ensuite, elles font très bien leur boulot. Elles ont des produits, elles ont leur aspirateur, et puis l'eau ne manque pas. C'est l'eau de pompe, c'est pas l'eau puisée dans les trucs qu'elles utilisent. Je suis très satisfait.
Ce que je porte là, par exemple, c'est elles qui me l'ont vendu. Donc je trouve qu'elles ont dépassé cette idée que la femme a de dire qu'il faut attendre qu'un homme vienne nous aider. Elles ont dépassé ce stade, elles ont atteint un autre stade où elles ont repris le rôle qui est dévolu à la femme.
De l'autre côté de la route, c'est une histoire différente. Fatoumata Djoulidé, 17 ans, lave les véhicules par obligation.
Je n'ai pas la soutenance, j'ai la famille à nourrir, c'est moi qui ai la grande fille. Mon papa, il a un problème de cerveau, j'ai beaucoup de difficultés. Je préfère me battre pour nourrir mes petites soeurs ici, quand je travaille ici. On me donne chaque jour 30 000. Fin de mois, on me donne un peu encore.
Le rêve de Fatoumata est d'avoir sa station de lavage. Et tout comme elle, les jumelles sont convaincues que l'autonomisation des femmes en Guinée est bien possible. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
Plusieurs associations encouragent les victimes de violences sexuelles à briser le silence afin de lutter contre l'impunité. Notre correspondant à Yaoundé a été à la rencontre de quelques-unes de ces militantes qui mènent le combat dans une société où la victime risque encore d'être stigmatisée. Un reportage d'Emmanuel Jumtap.
Auteur d'un ouvrage intitulé « Violences sexistes et silencieuses, propos et comportements sexistes », Teklen Golibok a été victime en 2017 d'une tentative d'agression sexuelle dans son quartier à Yaoundé. La jeune auteure dénonce à travers son ouvrage ce qu'endurent les femmes victimes des violences sexuelles au Cameroun.
Comment faire pour avoir un certificat médical au Cameroun quand on est victime d'une agression et on est traité comme le commun des patients? Porter plainte, là encore, c'est le calvaire pour la femme violentée. Tu dois faire face soit à des hommes, soit à des femmes qui ne sont pas du tout préparés à accueillir des personnes victimes d'un traumatisme. J'ai été choquée parce que quand j'ai raconté mon histoire, les enquêteurs ont éclaté de rire. Et on m'a demandé, c'est pour tout cela que vous voulez porter plainte.
Pour encourager les femmes à briser le silence, l'association de lutte contre les violences faites aux femmes a ouvert une cellule d'écoute gratuite. Certaines femmes, sous anonymat, comme cette dame, en entretien avec un responsable du centre, ou à partir d'une ligne verte, y dénoncent les violences dont elles sont victimes.
Les cas d'abus sexuels, les violences sexuelles, ce sont les violences les plus difficiles à dénoncer parce que ça touche l'intimité et la féminité de la femme. Nous avons des médecins partenaires et des hôpitaux partenaires. Donc si nous constatons que la femme n'a pas la force psychologique ou financière d'aller s'adresser au niveau de ses professionnels de santé, si je prends le cas du viol, on les accompagne physiquement pour qu'elles soient davantage rassurées.
Les femmes se tournent vers la justice en dernier ressort pour la protection de leurs droits. Cette magistrate et militante des droits de femmes soutient que les autorités camerounaises ont mis en place une législation pertinente contre les violences et abus sexuels basés sur le genre.
Les peines en matière de viol sur les mineurs, c'est vraiment dans les 20 ans et plus. C'est vraiment lourd. Les mineurs sont vraiment protégés. Maintenant, les majeurs également, parce qu'il faut rappeler que le viol, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels sans le consentement de l'autre.
Le viol et même le viol conjugal sont réprimés au Cameroun. Mais plus de 20% de femmes auraient eu au Cameroun entre 2019 et 2022 leur premier rapport sexuel sans leur consentement, selon un rapport de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme Cameroun. Emmanuel Jumdap, VOA Afrique, Yaoundé.
Si je le pouvais. En Côte d'Ivoire, des centres de transit et de réinsertion socio-professionnelle ont été mis en place pour soutenir la prise en charge des enfants et adolescents de la rue et en difficulté avec la société. Découvrons l'un de ces centres à Abidjan qui donne de nouveaux espoirs à ces enfants à travers ce reportage de Delphine Bowis.
Des enfants de la rue, des enfants vulnérables et déscolarisés, autrefois livrés à eux-mêmes, sont aujourd'hui pris en charge par le centre Amigo Doumé à Abidjan. Que fait ce centre et qu'est-ce qu'il propose à ces enfants? Sylvestre Bini est le directeur adjoint du centre Amigo Doumé dans la commune de Yopougon.
Nous les formons dans des métiers tels que l'agriculture, l'élevage, la menuiserie et la chevronnerie. Et aussi, nous leur dispensons des cours au niveau de l'alphabétisation.
Une visite de ce centre qui s'étend sur une superficie de plusieurs hectares nous a permis de voir des cultures hors sol pratiquées, des sites pour l'élevage et la ferronnerie. Nous nous dirigeons vers les enfants en plein travaux. Écoutons Amidou Sangaré, 14 ans, qui a choisi la ferronnerie.
Il me promenait, il ne partait pas à l'école. Ça ne m'a pas dit qu'il y a un scientifique qui veut me mettre dedans. Ça, il s'est fini. Il fait ça aujourd'hui. Il sait souder, il sait couper, il sait faire tout.
Quant à Amara Kofi, 13 ans, il a porté son choix sur l'élevage.
J'apprends beaucoup de choses à vacciner les animaux lorsqu'ils sont malades et j'essaie de les traiter aussi.
Miguel Bicente est le directeur du centre Amigo Doumé. Il revient sur le choix du métier de ses apprenants.
C'est l'enfant lui-même qui choisit les métiers qu'il va apprendre. Il va passer 2 semaines ici au centre, dans ses activités ordinaires. Et puis il va passer chaque jour par un atelier. Et après il va choisir ce qu'il aime.
Ces enfants recueillis par le centre après une année d'apprentissage ressortent avec des certificats de formation. Des métiers qui vont leur permettre sans doute de s'insérer dans la vie active. D'autres le sont déjà, à l'image de Denis Kwame, menuisier au quartier magasin dans la commune de Yopougon.
Quand j'étais plus enfant en difficulté, les parents n'avaient rien et la chance m'a été donnée. La menuiserie, c'est quelque chose que moi d'abord j'ai aimé et c'est avec mon métier que je paye le loyer, les factures et tout.
Le centre Amigo Doumé s'occupe également des enfants orphelins et des enfants victimes d'exploitation. Miguel Bicente, le directeur du centre, nous en parle.
Tout enfant qui a des problèmes peut venir ici. Il y a plus de 70% de nos statistiques qui travaillent dans les métiers qui sont appris ici.
Face à ces nombreux défis, Amigo Doumé, ce centre de réinsertion sociale spécialisé dans la protection des enfants âgés de 13 à 18 ans, a toujours besoin d'appui pour poursuivre sa mission d'encadrement des jeunes enfants vulnérables. Delphine Bouiz, Abidjan, VOA Afrique.
Monde féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
Pour certains, le tournoi annuel de basketball de la NCAA, l'Association nationale du sport universitaire, est synonyme de paris sur les résultats des matchs. Mais cela peut poser un problème en particulier pour les jeunes Américains, selon le Centre national pour les paris responsables. Dilly Dico nous en dit plus.
Selon le National Center for Responsible Gaming, les jeunes adultes américains sont de plus en plus nombreux à être dépendants des paris en ligne. Jusqu'à 7% des Américains de moins de 25 ans présentent des symptômes d'addiction. Saul Malek est l'un d'entre eux. Il est devenu dépendant aux paris sportifs en ligne alors qu'il n'avait que 19 ans.
So I won that first small bet.
J'ai gagné ce premier petit pari et je me suis senti au sommet du monde, mieux que je ne l'avais jamais été auparavant. J'avais l'impression d'être un chef de mafia, de mener la danse et tout le reste. C'était une expérience folle, même s'il ne s'agissait que de 10 dollars. Alors j'ai voulu la répéter.
Très vite, Malek a commencé à avoir des difficultés financières. C'est alors que ses amis et sa famille l'ont convaincu de demander une aide psychologique. un psychologue, affirme qu'il voit un lien entre la légalisation des paris en ligne et l'augmentation des comportements addictifs.
Au cours des 3 ou 4 dernières années, j'ai eu davantage de consultations avec des personnes qui luttent contre les addictions aux paris en ligne. L'État de Pennsylvanie a approuvé les jeux d'argent sportif en ligne en 2017 et ils sont devenus accessibles au public vers 2018-2019.
Selon Forbes, les paris sportifs en ligne sont actuellement légaux dans 33 États américains. De nombreux psychologues estiment que la facilité d'accès fait partie du problème.
Avant, pour parier, il fallait s'habiller, sortir, aller dans un bar local, parler à un bookmaker, puis faire le pari, apporter l'argent et ainsi de suite. Alors que maintenant, il suffit d'allumer son ordinateur ou prendre son téléphone.
Certains États s'efforcent de sensibiliser les jeunes à la dépendance aux jeux. Une initiative présentée par le politique Sam Rassoul a permis à la Virginie de devenir le premier État à exiger que toutes les écoles publiques enseignent aux élèves les risques liés aux jeux d'argent.
En général, un enfant dans chaque classe est confronté à ce problème. L'élément important de la prévention dans la période de dépendance, qu'il s'agisse de drogue, d'alcool ou de paris.
Dans d'autres États, comme la Caroline du Nord et le Wisconsin, où les paris sont autorisés sous diverses formes, certaines écoles ont également choisi de mettre en place des programmes obligatoires avertissant les enfants des dangers des jeux d'argent afin d'essayer de prévenir une augmentation des cas de dépendance aux jeux.
Perfetta est une nouvelle agence de mannequins italienne qui connaît un grand succès avec un concept dénommé Beauté Imparfaite. L'agence compte désormais plus de 140 modèles. Les détails avec Blanche Sanou.
Sonia Sparta est modèle pour l'agence L'Imperfetta, est en pleine séance photo avec d'autres modèles. Sonia souffre d'un trouble cutané rare appelé hyperpigmentation qui lui a fait avoir des taches sombres sur son visage et son corps.
Je souffre d'une pigmentation hyper aiguë qui m'a forcé à vivre en Sicile. J'ai souffert d'une variation hormonale et d'une période d'absence de menstruation, en plus d'un trouble de l'alimentation. Ce changement hormonal a émergé sur tout mon corps, sous la forme de spots que vous voyez, et cela m'a créé pas mal de problèmes.
Elle a caché sa maladie pendant la majeure partie de sa vie, coloriant ses nuances plus foncées et en utilisant des crèmes de bronzage. Mais aujourd'hui, elle est consciente de sa beauté.
J'ai changé mon regard pour que ma faiblesse, ou plutôt ce que je croyais être une faiblesse, devienne ma force, mon caractère distinctif.
On retrouve à l'agence Imperfetta des modèles de toute taille et de tout âge avec un handicap ou des conditions médicales comme l'alopécie, le vitiligo, des cicatrices visibles ou certains qui ont perdu des membres. Désirée D'Angelo était coincée à la maison pendant la pandémie. Elle a laissé sa couleur de cheveux naturelle se développer et a commencé à publier des photos sur Instagram. C'est ainsi qu'elle a été découverte par Carlotta Giancane et travaille maintenant avec l'Imperfetta.
J'ai eu une alopécie depuis l'âge de 10 ans et au départ c'était total. Les cheveux repoussent lentement par endroits. À présent, je m'accepte comme je suis. J'aime mon corps, j'aime ma particularité. À la fin, je l'ai accepté.
L'agence de modélisation Imperfetta a été lancée en 2020 par Carlotta Giancane, qui a estimé qu'il y avait un écart sur le marché pour des modèles réalistes à laquelle les vraies femmes pouvaient s'identifier.
E ho deciso di avviare un'agenzia di moda diversa che rappresenta.
J'ai décidé de créer une agence de mode différente qui représente des corps normaux et différents qui ne répondent pas forcément aux standards de beauté. L'espoir est que la jeune génération peut en tirer un exemple, peut-être s'en inspirer et peut se sentir à l'aise dans son propre corps. Ainsi, l'agence Imparfaite est née et à ce jour, nous avons plus de 140 muses. Nous les appelons des muses parce qu'ils ne sont pas des modèles, des mannequins. Ce sont vraiment des muses qui inspirent une beauté différente.
Ces modèles imparfaits sont apparus dans des campagnes publicitaires pour les marques cosmétiques, les détaillants de mode et les supermarchés. Ces agences ont existé ailleurs en Europe et aux États-Unis, mais c'est le premier en Italie. Et les experts de l'industrie pensent que l'Italie est prête pour ces changements.
Depuis l'invasion de la Russie en Ukraine en février 2022, des dizaines de milliers de femmes ont volontairement rejoint les forces armées ukrainiennes. Fin 2022, le ministère de la Défense a fait état de l'enrôlement de près de 60 000 femmes. Gine Niwa nous en dit plus.
Nous avons rencontré Marita Richachenko pour la première fois près d'Izium en septembre. Elle a accompagné une équipe de Voice of America TV enquêtant sur des crimes de guerre russes présumés. D'apparence fragile mais courageuse, elle nous a montré le chemin vers une fosse commune récemment découverte. Aujourd'hui attachée de presse du commandement de l'armée de l'Est, elle est appelée dans la capitale. Nous sommes revus au bureau d'Ukrainska Pravda, un journal en ligne où elle avait travaillé avant la guerre. Lorsque les Russes ont marché sur Kiev en février 2022, le père de Richachenko s'est engagé dans l'armée, tout comme son petit ami. Elle a décidé de faire de même, s'engageant dans la défense du territoire. Elle affirme que la chose la plus difficile à propos de la guerre est d'apprendre la mort de ses camarades.
Je n'ai pas peur de retourner dans la région de Donetsk et d'aller au poste, tout simplement parce que je me sens vraiment à l'aise avec ma troupe. Mais c'est un peu difficile de penser à mon peuple, mes amis, mon père qui est maintenant à Bakhmout, mon petit ami qui est également parti. Ce n'est pas difficile de servir. Ce qu'il est, c'est d'attendre quelqu'un revenir du front.
L'ancienne journaliste de télévision, Anastasia Blishink, s'est également enrôlée dans les forces armées ukrainiennes. Originaire de Kherson, elle raconte que depuis 3 ans, elle a voulu s'engager dans l'armée, mais a hésité. Cela a changé lorsque les Russes ont lancé une offensive à grande échelle en marchant le long de la place Mikhaïlovka à Kiev, à côté des véhicules blindés russes détruits et exposés. Elle se souvient de ce moment décisif.
Le 24 février, j'ai emmené mon fiancé, un journaliste, un soldat de la 95e brigade d'assaut aérien, Alexandre Makov, au commissariat militaire. Le 25 février, il m'a appelé et m'a demandé « Comment vas-tu ?» J'ai dit que j'allais m'enrôler dans l'armée et il a soutenu ma décision.
Puis la tragédie est venue. En mai, son fiancé a été tué dans les batailles d'Izium. Blishik, qui a hâte de retourner au front, explique ce que la victoire signifie pour elle.
La victoire viendra non seulement quand nous récupérerons tous nos territoires, mais aussi quand tous les Ukrainiens comprendront que parler est l'arme la plus puissante et quand il y aura du respect pour tous ceux qui sont maintenant au front.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage.
En fait.